que c'est ce pupitre. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta présence. Seigneur, nous avons rendez-vous avec toi ici, avec toi Seigneur, pour que tu nous parles. Seigneur, tu es le roi de gloire, nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles. Je te bénis Jésus pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans ces temps de la fin. Les nations grondent, le monde gronde, les éléments grondent, mais les enfants de Dieu vont être révélés comme la lumière des nations. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, que tu croisses et que je diminue. Que Seigneur, vraiment, tu parles ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit soit au rendez-vous avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je voudrais rester dans l'esprit de ce que nous avons partagé lundi soir sur l'année 2008. L'année 2008, je vous l'ai dit, c'est la première année jusqu'au retour de Jésus qui inaugure la génération des Élysées. Mais aussi l'année 2008 est une année qui est... C'est une... Schmidka, l'année de la Schmidka, ça s'appelle. C'est-à-dire l'année du repos de la terre. C'est ça aussi qui est important. C'est l'année où la terre doit se reposer en Israël. C'est aussi une année qui en Israël, a quelques jours de plus, puisque nous sommes en 5768, 5768, et c'est important pour nous, parce que c'est l'année, dans le calendrier juif, qui a deux fois le mois de Hadar. C'est l'année qui a deux fois le mois de Hadar. Or, le mois de Hadar, c'est justement le mois de Kippour, du récit de Mardoché et d'Esther. Or, justement, l'année 2008 est l'année 5768 vont ensemble, et c'est l'année où le calendrier juif a un mois de plus pour se rééquilibrer. Parce que nous, notre calendrier, il est solaire. Et le calendrier juif, il est lunaire. Or, nous avons des années de 365 jours, et nous rattrapons tous les 4 ans, nous avons 366e jour. OK ? Bien, dans le calendrier juif, c'est tous les 28 ans, il y a un mois de plus de 28 jours. Je ne sais pas combien de jours exactement. Non, je l'ignore. Tous les 28 ans. Donc, dans le calendrier juif, c'est le mois le plus long depuis 28 ans. C'est l'année la plus longue depuis 28 ans, avec un mois de plus, pour rééquilibrer le 365 jours écart, normalement. Hein. Or, c'est justement l'année où il y a, donc, pour rééquilibrer, le peuple hébreu ne se casse pas la tête, il double un mois. Il double le mois qui se trouve être le mois prophétique de l'année. Et le mois qu'il double, c'est le mois de Hadar, c'est-à-dire le mois de la fête de Kippour, c'est-à-dire le mois où Mardoché se tient à la porte de la conciergerie royale à Suse, et Esther, sa pupille, sa cousine, sa nièce de deuxième degré, Esther devient reine. Or, c'est intéressant de dire qu'il y a trois choses qui sont extrêmement importantes dans ce mois de Hadar, dans le calendrier juif, que premièrement, Mardoché, c'est lui qui a formé Esther, n'est-ce pas? Mardoché est le représentant d'une génération, Mardoché. Mardoché, c'est le manteau de Mardoché qui repose sur les Esther. Mardoché, c'est la génération des Josué. Esther, c'est la nouvelle génération qui rentre dans le peuple, qui rentre dans la terre de Canaan, n'est-ce pas? Or, c'est intéressant de voir cela. Donc, il y a trois choses importantes dans cette année. C'est Mardoché, la génération de Mardoché, de la génération d'après-guerre, et Esther, la nouvelle génération, la génération des Élysées. Et la troisième chose, c'est que tout va se passer à la porte. Tout le décret royal se fait à la porte. C'est à la porte que Aman va dresser la potence. C'est à la porte que Aman va être dépouillé. C'est aussi à la porte que le roi va honorer Mardoché, qui sera sur un cheval et qui sera conduit par Aman. C'est aussi à la porte que les ennemis de Dieu, comme Aman, ont de la haine contre les Mardoché. C'est aussi à la porte que Mardoché dévoile le complot contre le roi. Donc, beaucoup de choses se passent à la porte. Et la porte représente la cité. La porte représente les trois courants, les trois courants qui font une société humaine. C'est-à-dire l'éducation, le juridique et l'administratif, et évidemment le business et le commerce. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de l'année 2008. Alors le Seigneur nous appelle à nous tenir à la porte. L'Église est appelée à se tourner vers la société, à s'intéresser sur les trois organes de la société. Et là, le filet du maître, nous sommes sensibles à cela, mais nous n'avons pas mis, il y a huit ans, quand nous avons fait les statuts, on n'a pas vu. Amen. Mais Dieu fait évoluer les choses. Gloire à Dieu. Mais ce soir, je voudrais particulièrement vous partager l'idée que j'ai déjà partagée ici, qu'en fait, le Seigneur n'a pas fini avec l'Église de France. Que non seulement l'Église de France a sa source à Jérusalem, son départ à Jérusalem, comme toutes les églises du monde, mais il faut comprendre que l'Église de France, elle a une... Le Seigneur n'a pas fini. Et que le meilleur est devant nous et pas derrière nous. Ça, c'est une chose qu'il faut que nous comprenions. Et nous ne devons absolument pas céder à la tentation de croire que, l'Église de France, elle est dépassée. Elle a eu ses heures de gloire. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et c'est la même chose pour l'Église d'Allemagne. Voyez-vous, nous devons comprendre que la parole de Dieu est partie de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Elle reviendra à Jérusalem. Et depuis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces 40 dernières années, dont la césure se trouve être la fin 2007, on peut dire que c'est pas pendant ces 40 dernières années que la parole de Dieu a été jusqu'aux extrémités de la terre. Et il est intéressant de savoir qu'il y a comme un processus spirituel qui va maintenant des extrémités et qui fait un retour vers Jérusalem. Un processus spirituel qui fait que des extrémités, les événements, l'œuvre de Dieu va revenir. C'est comme si les nations des extrémités de la terre connaissent un réveil et ce réveil va se rapprocher de Jérusalem pour que le dernier réveil sera à Jérusalem. Et nous devons comprendre cela. Cela a été donné à plusieurs prophètes ces 20 dernières années, ce processus-là. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes, l'Église de France a été considérée comme, entre guillemets, la fille aînée de l'Église. C'est par son orgueil, elle s'est considérée. Mais il faut reconnaître que, il faut aussi reconnaître que c'est à la Sorbonne, que toute la culture française, c'est à la Sorbonne que la langue française s'est formée au travers des commentaires vernaculaires du patois de l'Île-de-France. Je l'ai piqué dans un livre de Luc Bussière, ça, alors je vous le répète. J'aime beaucoup tes livres, Luc. Ouais. Et c'est là que la langue française est née. Alléluia. Et vous savez que la culture, elle est liée à quoi la culture? Elle doit être liée, tout au moins, à notre adoration, à l'expression de notre adoration pour Dieu. La parole, la langue, le langage, la parole, ont été, Dieu nous a fait parole nous a donné, pardon, nous a, nous avons été créés par la parole de Dieu, nous a donné une parole pour le louer. Et donc il y a une réforme. Et s'il y a eu une réforme au XVIe siècle, c'est qu'une des plus vieilles universités d'Europe, qui est la Sorbonne, a été un grand rayonnement culturel avec, je crois, l'école de Cluny, l'école de Melun. Et on doit comprendre que qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Eh bien, il y a eu l'échec de la réforme au XVIe siècle en France. Mais aujourd'hui, la France est en train de faire sa réforme avec 500 ans de retard. Il faut comprendre cela. La France est en train de faire sa réforme avec 500 ans de retard. Et regardez le président que nous avons. Sa vie un petit peu tumultueuse laisse entendre qu'il est bien le reflet de notre pays, finalement. Mais ce qu'on ne supporte pas, c'est que, au travers de sa vie, ça nous le rappelle. Si vous êtes effrayé par son comportement, alors pourquoi ne l'êtes-vous pas par le comportement global des Français? C'est ça la vie de famille en France, dans la grande majorité. Mais le Seigneur est en train de lever une réforme. Il y a une réforme qui commence dans l'Église de France, ou plus exactement, beaucoup plus profondément que la France, de la francophonie. Amen. Et un réveil vient. Et ce réveil va reprendre ses fondements, sa source, dans la réforme du XVIe siècle. C'est pourquoi je considère avec beaucoup d'estime le Collège Daniel, parce que un des principes fondamentaux de la réforme du XVIe siècle, c'est l'approche qu'avaient les réformateurs au regard de l'éducation. Et que là, ici, au Collège Daniel, à l'église Josué, vous avez ici une fondation qui est liée, qui est fondamentalement posée sur la réforme du XVIe siècle. Non pas pour la copier, mais pour y puiser aujourd'hui les sources. Je veux dire, vous épuisez votre foi. Amen. Or, pour que la réforme, or cette réforme de l'Église, la réforme de la francophonie, va amener le mouvement apostolique de l'Église de la fin des temps. Et voyez-vous, ce n'est pas dans le monde anglo-saxon, dans le monde hispanique, dans le monde asiatique, que nous trouverons l'image apostolique. C'est au travers de l'histoire de l'Église de France, parce que ça a été pendant des siècles et des siècles la plus grande base, si je puis dire, le plus grand centre de réflexion théologique de la chrétienté. Or, quand Dieu commence quelque chose, il le termine toujours. Dieu a commencé quelque chose avec Israël, il le terminera. Il n'y aurait pas eu la réforme du XVIe siècle s'il n'y avait pas eu la Sorbonne. Il n'y a pas eu que la Sorbonne. Mais même Wycliffe, qui était un pré-réformateur, ne pouvait pas ignorer la connaissance théologique de son époque. Ce n'est pas dans la maison de Wycliffe, ce n'est pas en Angleterre, c'est à la Sorbonne que toute la chrétienté se nourrissait des courants théologiques de la Sorbonne. Parce qu'autrefois, l'université était d'abord théologique. Et puis, il y a eu Jean Hus. Et puis, il y a eu Luther. Luther, lui, il n'a rien inventé. Il a puisé ce qu'il a lu, ce qu'il a entendu de ses pères, qui s'appelaient Jean Hus, qui s'appelle Wycliffe, qui, avant lui, proclamait l'autorité souveraine des Écritures, l'inspiration, que les Écritures étaient inspirées de Dieu. Et Luther a proclamé la justification. Nous sommes rendus justes par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et le verset principal de l'une des principales armes de Luther a été Où est le pupitre? Où est ma Bible? Où suis-je? Voilà. Le principe à âme, ça a été Matthieu 16, 18. Et il ne pouvait pas lire le Matthieu 16, 19. Il a commenté Matthieu 16, 18. Et c'est ça la réforme. Et qu'est-ce que la réforme a dit? Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église. Ça ne se lit pas dans nos traductions. Je te dis que tu es Pierre et sur ce roc que je suis, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et qu'est-ce que Luther a voulu dire? Il a voulu dire que ce n'est pas l'évêque de Rome qui est le vicaire du Seigneur, mais que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et d'ailleurs, Luther a fait le commentaire de la pierre angulaire développé dans la première épître de Pierre. Et que nous avons tous une relation personnelle avec Jésus, avec le Père, au moyen du sacrifice et du sang de Jésus à la croix. Vous me suivez? Et Luther a affirmé ce que déjà les pré-réformateurs avaient annoncé. Et donc, nous devons comprendre que cette réforme qui a été adoptée, la réforme du protestantisme qui a été adoptée au XVIe siècle, qui s'est poursuivie au XVIIe siècle, a été adoptée dans l'Europe du Nord. Et que nous devons comprendre que l'Europe du Sud est restée enfermée par la doctrine catholique romaine. Où hors de l'Église catholique romaine, il n'y a point de salut, et que l'Église catholique est le moyen de salut qui te permet d'hériter du royaume, c'est par l'Église, par les sacrements de l'Église catholique, et non pas par la conversion de notre cœur. Donc nous devons comprendre que Luther a apporté une réforme considérable, et qu'elle a eu immédiatement, elle a eu écho à la Sorbonne, l'école de Malin, entre autres, et nous avons entendu le fameux Calvin. Et Calvin est venu à peu près 20 ans après Luther. Et Calvin a libéré. Luther avait une théologie, je dirais, verticale, alors que Calvin avait une théologie plutôt horizontale. Luther a restauré la relation entre Dieu et l'homme, et Calvin a restauré la responsabilité d'un enfant de Dieu face à sa tâche dans le monde. Et on peut vraiment dire que le calvinisme a été le grand moteur dynamique qui a conduit aux merveilleuses missions de toute la terre pendant le 19e siècle. Nous devons donc comprendre que, mais la réforme, elle a échoué en France. La seule réponse que Dieu a donnée, c'est quoi? C'est le mouvement prophétique. Et là, le Saint-Esprit, là, le Seigneur a montré que ce qui allait être la... Pourquoi le mouvement prophétique est apparu? Il est apparu au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Ou exactement juste après. Après la révocation de l'édit de Nantes qui révoquait tous les protestants. En 1685. C'est cela. Et le courant prophétique a duré à peu près une vingtaine d'années. Et nous devons comprendre que s'il a été perverti par les âmes, etc., ça c'est une autre question. Mais le premier parti du mouvement prophétique a été la réponse du Seigneur à la défaite de la réforme. Le Seigneur a dit par là, eh bien, ce qui va être la suite de la réforme calvinienne ou calviniste, ce sera le mouvement prophétique. Et c'est ça qui s'est passé. Le protestantisme n'a pas compris le mouvement prophétique. Et lorsqu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, un pasteur de Suisse s'est levé, j'ai oublié son nom. Ah, comment s'appelle-t-il? Non, c'est pour restructurer l'Église réformée de France. Comment s'appelle-t-il? J'ai son nom au bout de la langue. Le pasteur, lui et ses enfants ont fait alliance avec la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie apparaissait à cette époque comme le mouvement humaniste tolérant qui permettait de respecter les religions. Mais Dieu ne veut pas cette alliance avec l'humanisme, mais il veut une alliance de la réforme avec le mouvement prophétique. Et c'est ça. Mais la réforme s'est arrêtée. Et une nouvelle réforme est en train de venir. Et cette nouvelle réforme, elle n'est plus fondée sur Matthieu 16, 18, mais Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 18, c'est la restauration de l'autorité de Christ comme fondement de l'Église. Matthieu 16, 19, c'est les clés du royaume. Jésus donne les clés du royaume. C'est pour ça qu'on a donné la formation de nos jeunes, on l'appelle les clés du royaume. Et qu'est-ce que les clés du royaume ? Les clés du royaume, c'est la connaissance spirituelle des lois du royaume qui doit nous amener à la connaissance du Père. Mon but, c'est de le connaître, lui, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, dit Paul dans Philippiens 3, 10. C'est ça les clés du royaume. Les connaissances des lois spirituelles, et quand tu utilises les clés du royaume, tu libères la puissance du Saint-Esprit. Quand tu utilises les clés du royaume, tu libères l'onction. Donc tu amènes les signes, les prodiges et les miracles sur la terre. Parce que quand les miracles sont là, tu manifestes quoi quand les miracles sont là ? Tu manifestes les lois même du royaume sur la terre. Mais les réformateurs ne pouvaient pas utiliser le verset 19. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Le verset 18 appelle l'autorité de Jésus. Le verset 19 appelle le rôle du Saint-Esprit. Et regarde ce qui est ensuite. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Waouh ! C'est-à-dire, tout ce que tu feras libérera de ta vie l'autorité sur la terre, donc dans les cieux. Si tu libères l'autorité de Christ dans ta vie, au travers de ta vie en Christ, parce que lier, ce n'est pas une question de chasser les démons ou pas chasser, c'est beaucoup plus profond que ça. Tout ce que tu liras sera lié. Lira à quoi ? À qui ? Lié à Jésus. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire lorsque tu manifesteras l'autorité de Jésus, tu libéreras la puissance du Saint-Esprit sur la terre et sera libéré dans le ciel. Pourquoi dans le ciel ? Parce que le ciel ne représente pas le trône de Dieu, là. Il représente le monde des ténèbres. Ce sera libéré. Mais il représente aussi quoi ? C'est-à-dire tu bouleverses le ciel. Tu bouleverses ce que tu fais sur la terre. Au travers de ton témoignage, a un impact dans le ciel. Amen. Et si cela a un impact dans le ciel, si tu libères le ciel, alors cela revient en puissance de bénédiction. Amen. Le verset 19 amène le témoignage de l'Église, conduit le témoignage de l'Église à rassembler les nations et les ramener à Jérusalem. Alléluia. Le verset 19 est le verset de la nouvelle réforme de l'Église. Le verset 18 est le verset de la réforme du 16e. Le verset 19 est le verset du 21e siècle. Mais quels sont les fondements mêmes de cette nouvelle réforme ? Sur quoi elle se base ? Sur 5 points. Là, je dis ce que je fais une étude sur que je vais d'ailleurs donner l'année prochaine à Turin, que j'ai déjà donné dans deux écoles prophétiques. La première chose, c'est l'enseignement du royaume. C'est l'enseignement n'est plus fondé sur l'Église, mais sur le royaume. Du temps de Luther, tout enseignement théologique avait comme fondement l'Église, ce qui n'était pas faux. Mais aujourd'hui, à cause de la révélation du Saint-Esprit, nous avons une révélation profonde du royaume. et qu'il y a l'enseignement aujourd'hui, l'enseignement dans l'Église n'est pas un enseignement seulement, ne doit plus être un enseignement sur le salut, mais sur le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Et quand tu prêches le royaume, tu inclus non seulement le salut, qui est au centre du royaume, mais tu libères la puissance, les prodiges et les miracles de Dieu. Quand tu prêches le royaume, tu révèles le cœur du Père, parce que c'est le Père qui règne. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? 1 Corinthiens 15, verset 25, on l'a lu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Christ dans notre cœur, dans notre vie, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Amen. C'est cela le royaume de Dieu. C'est que Jésus règne dans notre cœur, dans notre vie. Et que par la vie du royaume en nous et les manifestations du royaume en nous, nous amenions les nations à Jésus. C'est pourquoi c'est si précieux d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et voyez-vous, la réforme était fondée sur le salut en Christ. La nouvelle réforme est fondée sur l'enseignement du royaume. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'enseignement du royaume nous révèle aussi les lois du royaume. Qu'est-ce que le royaume ? Et c'est d'autant plus important que cet enseignement du royaume prépare l'avènement du retour de Jésus. Le message du salut chez les réformateurs et chez Wesley était fondé sur la place de Christ dans nos vies et dans l'Église. Car Jésus est le fondement même de l'Église. Alors que l'enseignement du royaume inclut la place de Christ comme fondement de l'Église, mais amène l'Église à rechercher la gloire. C'est pourquoi la première chose, et c'est comme disait Rick Joyner, il a eu la révélation à la fin 2007 que le Saint-Esprit allait toucher une multitude d'églises pour prêcher le royaume. Donc il y a 5 points. Le premier, c'est l'enseignement du royaume de Dieu et ses manifestations. Deuxièmement, l'expérience de la gloire du Père. Le royaume, l'enseignement du royaume doit t'amener à connaître le cœur du Père. Troisièmement, ce que j'appelle la révélation de l'épouse. La gloire du Père doit t'amener à faire de toi un père, une mère spirituelle, pour amener les âmes au salut. Si tu es un père, si tu es une mère spirituelle, Dieu te donne les nations pour les amener à Jésus. Mais il ne te donne pas les nations d'abord pour les amener à Jésus. Il commence à les donner au moyen du témoignage de puissance dans ta vie. Alléluia. Tu commences à révéler le cœur du Père dans ta vie. C'est le cœur du Père, c'est la vie d'adoration que tu as. Si tu te tiens dans la présence de Dieu, l'enseignement du royaume t'amène à une révélation de la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. L'expérience de la puissance de la gloire de Dieu t'amène à expérimenter le cœur du Père. Et c'est là où se tient le prophétique. Il n'y a de prophétique dans ma vie que si j'ai une révélation de ce qu'est le cœur du Père. Je ne peux pas recevoir les pensées de Dieu si je n'ai pas une révélation de son cœur. Et c'est pour ça que la troisième étape de la réforme, la troisième composante de la nouvelle réforme de l'Église, c'est quoi ? C'est la révélation de l'épouse. C'est-à-dire, l'épouse se révèle dans la vie de chacun d'entre nous et au moyen de la communion fraternelle entre nous. Parce que nous connaissons les lois du royaume. Et ce qui est au centre les lois du royaume. Quand nous disons que c'est Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois libérer l'amour du Père pour les âmes perdues. Mais en même temps, tu dois manifester de par ta vie une vie qui reflète une vie sainte, consacrée à Dieu. C'est pour ça que la révélation de l'épouse appelle à quoi? Qui révèle la beauté de l'épouse. L'épouse doit être en robe de mariée. Elle doit se préparer. Et de quelle manière doit-elle se préparer? Au moyen de la communion fraternelle et de son expression prophétique. Amen. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de manifestation du royaume s'il n'y a pas d'église. La vocation de l'église, c'est de manifester le royaume. Il ne peut pas y avoir de manifestation du royaume s'il n'y a pas l'église. Alors, quelle est la quatrième composante de la réforme? La quatrième composante de la réforme, c'est si l'église se lève et par son témoignage manifeste son autorité, son invincibilité et sa beauté, alors la richesse des nations lui sera donnée. Donc la quatrième composante, c'est la richesse des nations sera déposée au pied de l'Église. Premièrement, enseignement du royaume, expérience de la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est l'expérience. Troisièmement, c'est la révélation de l'épouse. Quatrièmement, la richesse des nations lui est donnée. Amen. Mais pas la richesse seulement de l'argent, la richesse dans le sens où, je devrais plutôt dire, la gloire des nations est donnée à l'Église. C'est la gloire des nations. Et qu'est-ce que la gloire des nations? C'est le témoignage de Jésus-Christ dans chaque nation qui libère la gloire des nations. C'est le témoignage. Comment voulez-vous qu'il y ait une gloire des nations s'il n'y a pas au départ la nation qui libère, l'Église libère la destinée de la nation? Amen. Parce que les nations sont prisonnières du prince de ce monde. Et les cultures sont perverties par le prince de ce monde. Et c'est à l'Église de libérer la culture pour qu'elle soit tournée non plus vers le prince de ce monde, mais elle soit l'expression d'un peuple pour son Dieu. C'est pour ça que j'aime parler dans cette quatrième composante de ce que j'appelle la gloire des nations. La gloire des nations est rendue. Et la gloire des nations se trouve dans un territoire au travers de l'histoire des martyrs et du passé. L'ennemi a tout détourné, mais le sang des martyrs dans les nations est là écrit. Et quand on parle de la gloire des nations, on parle de la richesse des nations. Et quand on parle de richesse des nations, on parle de la vraie destinée des nations. Mais cette destinée a été détournée au moyen de l'argent et de toutes les perversions de l'occultisme. Or, l'Église ramène, fait ressortir la vraie richesse des nations et la gloire des nations. Et le cinquièmement, c'est le plus puissant. C'est celui qui amènera le retour de Jésus. À votre avis, quelle est la cinquième composition de la nouvelle réforme de l'Église? Eh bien, je vais vous le dire, c'est ce que j'appelle l'Israël de Dieu. C'est ce que j'appelle l'Israël de Dieu. Cette cinquième composition, c'est que si le royaume des dieux est manifesté dans l'Église, si l'Église s'est élevée comme l'épouse parfaite qui marche dans la gloire et manifeste les œuvres de gloire, et si les nations sont ramenées à Jésus, alors Israël se reconnaîtra à travers l'Église, à travers le témoignage de l'Église, son Messie. Mais elle le verra lorsqu'elle comprendra que ce qui est le fondement des nations, c'est Jésus. Et l'Israël de Dieu, c'est l'Israël. Ce sont les Juifs, mais les Juifs qui sont sous la bannière de Christ, les Juifs messianiques. L'Israël de Dieu, ce sont ceux qui ont... Ce serait beaucoup trop long pour vous le montrer. Il est question dans l'Épître aux Galates de l'Israël de Dieu. Ce sont ceux qui parachèvent leur histoire en donnant leur cœur à Yeshua, à Mashiach, à Jésus. C'est-à-dire, c'est le réveil d'Israël, tout simplement. Amen. Et ce réveil d'Israël va amener à une union, à Philippiens 2 et surtout Éphésiens 2 disent que Christ nous a rassemblés, nous, les païens, avec les juifs, en une seule personne, en un seul corps, dans la mort et la résurrection de Jésus. Et bien, l'Israël de Dieu, c'est au travers du réveil d'Israël, l'Église des nations, avec l'Église messianique, s'unissent pour ne faire plus qu'une seule Église. Et c'est cette union au travers de l'amour que alors à ce moment-là, nous aurons la force d'abattre Satan sur la terre. Et si lui sera abattu, alors ce sera le temps de l'enlèvement. D'ailleurs, j'ai une excellente petite étude sur l'enlèvement. Je vous rappelle, je voudrais vous la laisser. Elle n'est pas de moi, elle est très bonne. C'est pourquoi l'enlèvement est la manifestation du parachèvement du rôle de l'Église sur la terre. L'enlèvement n'est que la troisième. Il y a trois manifestations du réveil qui viendra. L'une au travers de notre esprit, au travers de notre âme, au travers de notre corps. Au travers de notre esprit, l'Église commence à se réveiller à la fin des temps quand on entend la voix prophétique. L'Église est comme une trompette. Quand elle prophétise, l'Église est comme une trompette prophétique sur les nations. Et ça, c'est ce que j'appellerais le mouvement de réveil de l'esprit. C'est-à-dire, notre esprit est comme enlevé, transporté, parce que nous avons des révélations de Dieu. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Notre âme est comme transportée, notre corps. La caractéristique du réveil de la fin des temps, c'est que des milliers, et je crois même des centaines de milliers de gens, vont être déplacés en une fraction de seconde. Je l'ai vécu personnellement deux fois dans ma vie. Je crois l'avoir raconté, n'est-ce pas ? Non, je ne l'ai pas raconté. Oh, j'ai vécu deux expériences extraordinaires. Eh bien, je me suis trouvé dans le jardin. Oh, mais c'est trop long, là. J'ai vécu deux expériences fortes. La première fois, c'est dans le jardin, dans le parc du palais de Versailles. Et la deuxième fois, c'est au Mont Tabor, en Israël. En vrai dire, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai été témoin. Je l'ai vécu que la première fois, ce qui est pas mal quand même. Hein. Je vais vous le raconter dans quelques minutes. Il y en a qui se réveillent là. Mais ça, c'était le signe du réveil de la fin des temps. C'est que nous allons être déplacés physiquement et ce sera le signe prophétique et précurseur de l'enlèvement de l'Église. Premier signe, c'est la voix prophétique. Deuxième signe, on se déplace. Et pourquoi on va se déplacer ? Pour prêcher Jésus. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les prophètes, ce sera les évangélistes qui se déplaceront. C'est votre amour des âmes perdues vous conduira à un déplacement. C'est ce que j'appelle l'enlèvement du corps. D'abord l'enlèvement de l'esprit. L'enlèvement du corps, on se déplace pour évangéliser. L'enlèvement de l'esprit dans l'Église amène la prophétie. L'enlèvement du corps, c'est-à-dire déplacement du corps en une fraction de seconde. Pensez donc, je cours toujours après un billet de train ou un billet d'avion. L'enlèvement du corps nous amène à amener le salut à des âmes, comme Philippe pour l'eunuque éthiopien. Et le troisième niveau de réveil, c'est l'enlèvement de l'Église intestinale. Thessaloniciens chapitre 4. L'enlèvement de l'Église est dans le réveil. Il fait partie du réveil parce que l'aboutissement du réveil est en fait une moisson. Et c'est l'enlèvement de 30 âmes que j'appelle l'enlèvement de l'Église. En fait, c'est l'enlèvement de notre âme. En fait, on est en cette fin des temps déjà dans un processus d'enlèvement. Pourquoi ? Parce qu'on est comme enlevé au ciel pour être capable de prophétiser. Non pas que je quitte mon corps, mais mon esprit est comme enlevé. Mon esprit voit des choses en avance. C'est pourquoi la voix prophétique est une forme d'enlèvement. Et quand les choses seront déplacées, parce qu'il y en a déjà en Ukraine, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, il y a des personnes qui aujourd'hui sont déplacées. Alléluia. Et ça, ce sont des signes de l'enlèvement de l'Église. Mais en fait, parce qu'il faut que Dieu parle, et c'est la voix prophétique qui fait résonner la parole de Dieu pour cette réforme de l'Église. Et ensuite, l'aboutissement de la voix prophétique, c'est qu'au bout du chemin, partout, les hommes aient entendu l'Évangile. C'est pour ça qu'il faut l'enlèvement des corps. Et que quand l'Évangile sera entendu et accueilli, alors ce sera l'enlèvement de notre âme, que j'appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, des quatre vents, toute l'Église sera rassemblée. Est-ce que vous comprenez ? Ne voyez pas l'enlèvement comme quelque chose à la fin des temps, mais comme faisant partie du processus de ce que Dieu est en train de faire. L'aboutissement de la réforme, c'est que nous allons nous retrouver dans le royaume. Alléluia ! C'est pas extraordinaire cela ? Alors, la question de savoir si on est pour ou contre l'enlèvement, si on prêche contre l'enlèvement, c'est parce qu'on n'a pas compris le processus que Dieu fait dans cette fin des temps. On ne voit pas ce qu'est la réforme de l'Église. Et je vous donne cet enseignement d'une manière extrêmement lapidaire. Il me faudrait 6 jours de plus. Alors déjà que j'ai mis 2 écoles prophétiques en même temps, la même semaine, en étant à demi mort. Alléluia, oui, vous m'avez déjà entendu prêcher sur cela. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, la réforme de l'Église anticipe 1 Pierre chapitre 3. La réforme de l'Église anticipe quoi ? L'avènement du Seigneur Jésus. C'est cela qui est en train de se passer. Et c'est déjà en cours. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia, béni soit ton nom. Tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs, et tu fais de grandes choses. Mais quand l'Église sera unie avec les messianiques, quand elle aura déterré la gloire des nations, quand elle aura révélé la gloire des nations, quand elle amènera les nations à Jérusalem, alors elle sera une. Et c'est à ce stade que l'Église sera capable de dire à Satan, tu es vaincu. Et à ce moment-là, il sera jeté sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Jésus jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais d'abord, il faut que Satan soit sous nos pieds avant que ce soit sous ses pieds. Pour que Satan soit sous nos pieds, relisez Romains 16, 20. Ne savez-vous pas que le Dieu de paix mettra Satan sous vos pieds ? Vous mettez Satan sous vos pieds quand vous vous débarrassez de vos péchés, quand vous demeurez dans la présence de Dieu, quand vous exercez la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une histoire, comme l'enlèvement. J'étais dans le parc de Versailles, c'était très il y a longtemps. J'étais jeune converti et j'étais avec le pasteur. Je venais de me convertir à Toronto. C'était en 75. Et je suis rentré en France en 77. Et en 77, j'ai eu la visite du principal pasteur de l'église anglicane de Toronto. Lui et sa femme sont venus. Et ce pasteur était un homme très cultivé, qui ne parlait pas français, mais qui avait une culture extraordinaire sur la France. Et il visitait la France Paris pour la première fois parce que sa fille venait d'habiter Paris. Donc je me suis arrangé pour leur trouver un hôtel ou un logement. Et puis il voulait absolument visiter le parc de Versailles. Et nous y sommes allés. Et lui disait, ah oui, Versailles, Louis XIV, ceci, Louis XIV, cela, etc. Et moi, sans arrêt, je lui disais, mais écoutez, agacé, je lui ai dit, mais écoutez, Louis XIV, pendant qu'il construisait le château de Versailles, il envoyait mes ancêtres aux galères. Il persécutait les prophètes. Et il persécutait les prophètes. C'est un homme qui a ruiné le pays. Et puis, je regardais toutes ces statues si mythiques avec... Il n'y a pas plus... Ça, le château de Versailles, le parc de Versailles, qui est fort beau, c'est un parc qui est rempli de démons. C'est affreux. Et je ne sais pas si vous voyez la partie du dessus du parc, devant le palais, et vous avez un grand bassin. Et là, à cet endroit-là, nous sommes partis en biais et nous nous sommes rapprochés de ce qui s'appelle le grand bassin, c'est-à-dire l'étang qui a fait mourir des centaines d'ouvriers, d'ailleurs, pour prendre un chemin sur la droite en direction du Trianon. Donc nous sommes partis vers le petit Trianon. Ils voulaient voir le petit Trianon. Et au moment où nous avons pris le chemin, il se trouve qu'à ce moment-là, je regardais mes pieds. Et au moment où j'ai posé mes pieds, je voyais les cailloux, je voyais la configuration du terrain. En une fraction de seconde, la configuration du terrain était totalement changée. Nous avons levé la tête et là j'ai vécu la plus puissante expérience de ma vie qui m'a tellement bouleversé que je n'ai pas cessé depuis ce jour d'intercéder pour le gouvernement. Et qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, nous nous sommes retrouvés. Je souris parce que je me souviens de la réflexion du pasteur qui a été sous un choc émotionnel. Lui qui me parlait de la grande culture, de la gloire de la France, etc. Il était sous le choc. Il ne pouvait plus dire un mot. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Il est rentré à Toronto, je pense, traumatisé. C'était en 77. Et alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand nous avons levé la tête, nous nous sommes trouvés exactement en face du Grand Trianon, peut-être à 40-50 mètres. Et il y avait un soldat, nous étions au milieu d'un carré. Il y avait... c'était pas un soldat, c'était un policier, épaule contre épaule. Vous imaginez un carré de trois côtés, pas du quatrième, et c'est là où on va parler du quatrième. Épaule contre épaule, épaule contre épaule, épaule contre épaule. Alors, si vous connaissez le Grand Trianon, vous ne le connaissez pas, ça fait rien. Vous avez deux bâtiments et une sorte de couloir avec des colonnades, ce qui est fort joli d'ailleurs. Et vous avez une sorte d'esplanade avec des escaliers. En bas des escaliers, magnifique, mais pas très haut, dans un pas très grand parc, entouré de la forêt, il y avait ce carré. Et nous nous sommes trouvés là, au milieu. Et face à nous, qui avait-il? Il y avait le président Giscard d'Estaing. Tout bête. Mais je ne vous ai jamais raconté cette histoire? Mais oui. Et il y avait le président russe. C'était pas Popcorny, c'était je ne sais plus qui. Et derrière, il y avait une femme qui traduisait. Gorbatchev. Non, c'était pas lui. C'était avant. C'était Brejnev. Et là, lui disait toujours, « Oh oui, le roi de France, le roi. » Moi, idiot, qu'est-ce que je dis? De quoi avoir à l'air d'une contenance. Je me souviens d'ailleurs, Giscard d'Estaing est très très grand. Et mince, c'est très grand. Tu dis comme il est grand, le président de la République. J'ai tout de suite reconnu le président français. Et j'ai dit en anglais à mon pasteur de Toronto, je lui ai dit, ah, eh bien écoutez, je ne peux pas vous présenter le roi, mais je vous présente le président de la République. Au moins, il m'agaçait. J'avais un argument. J'ai dit, bon, c'est pas le roi, mais c'est le président de la République. Et je me suis tourné vers le président de la République. Je lui ai dit, monsieur le président, je suis absolument désolé de vous interrompre, d'être là. Et lui, d'ailleurs, lui a pris les choses en main tout de suite. Alors, il y a eu un moment de stupeur où personne n'a pu comprendre. Il a dit, mais je vous en prie, je ne sais plus ce qu'il a dit. Genre, continuez votre visite, je vous en prie. Oh, monsieur le président, je me vois un peu... J'avais envie de lui dire, Monsieur le Président, c'est pas de ma faute si je suis là. Et après, on a voulu partir poliment. On n'a rien dit de plus, il ne s'est rien passé de plus. Mais comme tous les policiers étaient comme ça, on ne pouvait pas sortir. Et il a fallu que ce soit un officier qui dise « Écartez-vous pour les laisser sortir ». Et vous voyez, c'est là où je sais qu'il y a l'enlèvement, c'est les policiers. S'il n'y avait pas eu les policiers, je me serais dit, on a eu un moment d'absence. On pouvait imaginer que ce pasteur de Toronto, il peut y avoir, vous savez, une attaque cérébrale qui dure pendant le temps de la marche, et puis une attaque qui touche sur sa femme en même temps, et une attaque sur moi, ce qui est fort improbable. Une attaque cérébrale, j'accepte. Deux attaques, c'est encore... Mais trois en même temps... C'est impossible. Et puis, ce qui est impossible, c'est comment aurions-nous pu percer ce cordon de policiers pour nous mettre au milieu? C'est ça qui a été le truc. Après, tu te dis, sur le moment, tu te dis, mais... Bon, il est là, tiens, on marchait, puis brusquement, on a dû être entouré d'un cordon de policiers. Puis après, on a regardé sur la carte. Surtout, ce qui nous a le plus frappé aussi, c'est le retour. Oh, il était long le retour. On a mis plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour revenir. Et puis il fallait demander son chemin parce qu'on ne connaissait pas. Ah, et lui, il était toujours là comme un automate. Oh my God! Oh my God! Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je ne me souviens plus comment je lui ai dit au revoir, mais je le vois dire. J'ai dit, Seigneur, mamma mia, qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré en Toronto? Peut-être que ça a dû le faire rire. Ça a tellement fait rire que. Mais là, je plaisante. Et vous voyez, parce que le Seigneur a voulu là me donner un signe, et peut-être à lui aussi un signe. Quel est le signe qu'il a donné à ce pasteur de Toronto? Maintenant, avec le vin nouveau, je crois comprendre ce qu'est le signe que le Seigneur m'a donné. Il était pour lui, mais il était aussi pour moi. Et ce que je comprends en tout cas, c'est que l'enlèvement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route. Un autre enlèvement qui s'est passé... Là, nous étions... Vous étiez au voyage? C'est la voiture de Bruno, en haut du Mont Rêve. Alors là, je suis content. Je passe sur Toronto, j'ai plus de nouvelles, mais au moins, j'ai des témoins dans la salle pour le deuxième enlèvement. Vous n'étiez pas dans la voiture de Bruno. Donc, en fait, la voiture du Bruno partait en dernier, n'est-ce pas? Donc, il y avait... Eh bien, c'était la voiture de Pascal, ma femme, qui était devant. Donc on était en car, on visitait Israël, on était 50. Et on était avec l'abri. Donc on était prêts, et pour monter en haut du mont Tabor, il faut descendre de notre car, donc 50 pèlerins que nous étions en Israël, pour prendre des minibus de 6 à 8 places, et vous montez en haut du mont Tabor. Et on voulait, parce qu'on a une vue sur la plaine de Jisraël qui est très belle, et on voit le mont Megiddo, là où il y aura la dernière bataille finale à la fin des temps. Donc il y avait des bus qui étaient là et les personnes s'engouffraient. Et la dernière voiture avec Bruno, les chauffeurs de taxi étaient là, ils attendaient. La dernière voiture, en un clin d'œil, elle est arrivée. Alors, tout le monde est parti. Donc, il y a combien de kilomètres? 5 kilomètres, au moins. Hein. Donc, pour que nous soyons tous ensemble, on avait demandé au taxi, on disait, bon, voilà, maintenant, tout le monde est ensemble, disait Bruno. Tout le monde est dans son taxi. OK, on n'en oublie personne. Allez, le premier taxi, vous partez. Le deuxième suit, le troisième taxi suit. Jusqu'au huitième, on était combien? 8, 9 taxis, je ne sais plus. 8 taxis. Donc Bruno a fermé la porte, moi j'étais dans l'avant-dernier taxi, et le premier taxi est parti, suivi par les autres. Et quand les taxis sont arrivés en haut, eh bien le dernier taxi les attendait, Bruno était là. Alors nous on a tout de suite compris. Et ce qui était fabuleux, alors là, j'avais de la maturité un peu plus, hein. C'était il n'y a pas longtemps de ça, c'était pas dans les premières années de ma conversion que c'est arrivé. Là, on a loué Jésus. Mais alors, on a dit, Seigneur, tu nous dis quelque chose. Et là, on a rencontré un groupe messianique et un groupe américain. Et on a adoré, on a chanté en langue, et on a adoré Jésus, on était comme au ciel. C'était vraiment la montagne de la transfiguration. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. Et là, le Seigneur nous a montré, par ce signe-là, le Seigneur nous a montré qu'il allait y avoir des déplacements. Mon cher ami texan Jeff Collins me racontait que en Ukraine, la plus grande église du monde, conduite par un pasteur africain, nigérien, c'est pas ça ? J'ai oublié son nom. Ils expérimentent des déplacements, des enlèvements. Amen. Merci Jésus. Alors, n'est-ce pas encourageant de vivre tout cela ? Ne vivons-nous pas une époque extraordinaire ? Peut-être vous vous dites dans votre tête, « Ouais, mais c'est peut-être... » Non, c'est génial ! Cette réforme, tu sais quand elle commence, cette réforme, dans ta vie ? D'abord, n'oublie pas ceci. Communion personnelle avec Jésus. Pratique les dons spirituels. Adore Jésus. Accroche-toi au niveau des dons. Ça, c'est important. Les dons spirituels, ce n'est pas d'abord pour le ministère, c'est pour ta communion avec Jésus. Et pour manifester aussi l'unité du corps du Christ dans la louange et l'adoration. Car lorsque nous adorons Jésus ensemble, il y a une puissance qui se dégage. Amen. Deuxième chose importante, n'abandonne jamais ta famille. Ne quitte jamais ta famille. Ta famille spirituelle. Sois avec ta famille. Tout à l'heure, j'étais là, j'étais assis. Je me disais, mais Seigneur, ça fait combien d'années que je reviens ici à l'église Josué ? Ça fait combien d'années ? À un moment, j'ai eu et si je quittais Marseille ? Et si je venais m'installer ici, à Guebwiller ? Et puis si j'arrivais, mais je suis bien dans cette église. Je me suis demandé si elle n'était pas en train de devenir mon église, vous voyez ? Et puis j'ai pensé à la couleur de la mer, au rocher des Calanques, au ciel bleu, aux mouettes. J'ai pensé à un certain bateau, à ma canne à pêche. Et là, je me suis dit, Seigneur, comme c'est agréable d'être bien à Guebwiller, parce que, Seigneur, ce n'est pas encore mon appel de venir habiter ici. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu... Il y a un lac ? Il y a des poissons ? Oh ! Il y a un lac, il y a des poissons ? Il y a le Rhin ? Oui, il y a le Rhin. Le ciel bleu, où est-il ? Mais, amen ! Il y a encore du ciel bleu, entre deux nuages. Oui. Alors, il faudra que je secoue bien mon thermomètre, là, quand je voudrais, pour essayer de faire monter le mercure. Le parapluie fait en même temps parasol, oui. Mais il ne faut pas tomber malade, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci, Jésus. Mais là, j'ai senti qu'au fond de mon cœur, ce n'était peut-être pas encore mon appel pour me joindre à vous. Veuillez me pardonner. Je vous aime. Mais, voyez-vous, le Seigneur m'a construit avec un cœur de méditerranéen. L'Alsace, c'est beau. Mais voyez-vous, le problème de l'Alsace, c'est que le Rhin ne coule pas dans la bonne direction. Amen. Ça, vous allez le retenir. Merci Jésus. Mais je pardonne au Rhin. C'est pas de votre faute. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Vous habitez dans un beau pays. Vous habitez dans un pays où le Seigneur est en train à mi-chemin entre l'Allemagne et la France. Et c'est important. Parce que j'ai l'habitude de visiter l'Allemagne. Mais vous savez, ça fait 15 ans que je visite l'Allemagne. Vous savez, je pense que tous les pasteurs francophones, africains, me connaissent en Allemagne. Parce que je participe à des conventions et je prophétise sur les pasteurs italiens, italophones et francophones. Et là, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va m'ouvrir la porte de l'Allemagne, mais dans les églises germanophones. Alléluia. Et Dieu va me conduire, c'est déjà fixé la date pour aller dans une église germanophone en Allemagne. Extraordinaire. Ça fait 25 ans que j'attends d'aller en Allemagne. Ça fait 15 ans que j'y vais. Et au bout de 15 ans, il y a une église germanophone qui m'ouvre sa porte. Je suis rempli de courage. Mais alors, ces frères sont prophétiques. Ils ont reçu, c'est une église germanophone à Heidelberg, ils ont reçu du Saint-Esprit qui devait aller dans les églises de France. Alors, tous les anciens sont partis l'année dernière. Ils ont visité des églises francophones à Paris. Ils ont été accueillis. Mais, ils ne semblent pas avoir été tout à fait satisfaits. Et ce pasteur est venu m'écouter quand j'étais en Allemagne, quand j'étais à Stuttgart, il y a quelques mois. Et il a dit, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, c'est cet homme, va. Et alors, il vient de m'annoncer, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré que je dois venir avec les anciens de mon église et je dois venir chez vous. Oh ! Et heureusement, mon pasteur a des grands bâtiments, très grands bâtiments, il peut accueillir les gens à Marseille. Et j'ai dit, bon, je l'ai mis en contact avec mon pasteur à Marseille, alléluia. Et ils viennent de Heidelberg jusqu'à Marseille pour venir nous voir. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais vous révéler quelque chose pour la France et pour l'Allemagne. Et c'est un apôtre qui a une autorité en Allemagne qui vient. Ce sont des anciens, c'est peut-être des prophètes qui vont venir. Je ne pense pas qu'ils soient très nombreux. Ils sont censés être une quinzaine. Et le Saint-Esprit est en train de leur dire, je veux préparer une alliance entre l'Allemagne et la France. Comment ça va se faire? Quelle sera la prochaine étape? Je ne sais pas. Mais je sais que vous êtes ici en Alsace et je sais dans l'esprit que si quelque chose doit se passer, il est probable que je fasse appel à vous ou en tout cas à une église d'Alsace. Alléluia. Donc il faut prendre ces choses très au sérieux. Donc si le Rhin ne coule pas dans la bonne direction, il reste un fleuve dont Dieu, le Seigneur, va bénir les rives. Et rappelez-vous d'une chose, quand le mouvement de l'esprit viendra, le mouvement de l'esprit, il suit le courant des fleuves. Il suit des courants. Nous, le filet du maître, nous avons reçu comme fondement la ligne Rhin et Rhône. La vision que Dieu nous a donnée, c'était à Montpellier. Le Seigneur nous a dit, c'est cette ligne à Rhin et Rhône. Alors je dis, mais Seigneur, le canal entre le Rhin et le Rhône n'est pas construit apparemment. Mais Dieu veut quelque chose entre le Rhin et le Rhône. Et c'est fondamental. Tout mouvement prophétique, franco-germanique, est entre ces deux fleuves. Il faut bien le comprendre. Et le Seigneur nous donne nous avons des connexions avec des églises le long de la Garonne. Maintenant, nous avons compris que notre géographie, on l'a fait à partir des fleuves. Nous avons l'embouchure de la Garonne, la Gironde, et l'embouchure. Nous avons des églises connectées aux églises. L'embouchure de la Garonne, l'embouchure du Rhône, l'embouchure pas la Loire. Le Seigneur, nous avons une invitation à Nantes, mais on l'a pas répondu. En tout cas, l'embouchure de la Seine. Amen. Alléluia. Et le mouvement du Saint-Esprit va descendre. Et arrivé à l'embouchure, il va y avoir comme un remontée du Saint-Esprit. Et ce sont les villes le long des fleuves qui vont être puissamment visitées. Il faut comprendre la stratégie de Dieu. C'est pour ça que lorsque un mouvement d'esprit viendra entre l'Allemagne et la France, avec au centre l'Alsace, ce qui va être le top, on dit toujours il y a l'Allemagne, il y a la France, cet esprit m'a dit, où est la Hollande? Où est la Hollande? Et c'est important parce qu'il faut comprendre les connexions avec les fleuves. Alléluia. Et c'est très important parce que le Rhône, par contre, ça vient de Suisse. Et j'ai une vision, là, il y a deux semaines avec Jeff Collins, on faisait une convention au filet du maître, et on a vu, tu étais là, un aigle blanc et un aigle foncé. Et le Seigneur, il était là, il était au-dessus de Genève, et il allait jusqu'aux sources du Rhône. Et là, cette année, j'ai compris que le Saint-Esprit faisait quelque chose avec les sources. Il faut prier pour les sources. Dieu libère des sources dans cette année. Dieu a déjà libéré des sources les années passées à cause de notre intercession. Dieu a libéré des sources importantes, mais les sources sont importantes parce que les portes qui sont ouvertes ouvrent à des nouvelles sources qui vont jaillir.
Ah, Dagada, j'ai été très long ce soir, mais je voudrais vraiment te bénir, Père. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique? Est-ce que je voudrais bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? Amen, amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je reviens sur la notion de porte. Le Seigneur est le roi de gloire. Le Seigneur est le roi de gloire. Le Seigneur veut que tu restes attaché à ces trois choses. Laisse croître la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse croître la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse l'onction du Saint-Esprit couler. Laisse l'onction du Saint-Esprit couler. Que le Saint-Esprit coule. Que l'onction du Saint-Esprit coule. Au nom de Jésus. Que l'onction coule. Que la puissance du Saint-Esprit coule. Au nom de Jésus. Saint-Esprit coule, 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 coule. Maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit coule. L'onction, l'onction coule au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'appelle ton onction qui coule, la puissance du Saint-Esprit qui coule. Merci Jésus pour ton onction. Encore, 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 Saint-Esprit. Nous voulons t'adorer, Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Cette année aussi, une année où le Seigneur va donner un certain nombre de serviteurs de Dieu qui ont un appel prophétique, qui ont un appel apostolique, d'écrire. Vous allez écrire. Certains, il va y avoir des musiciens qui vont écrire aussi des compositions cette année. C'est une grande année de créativité, l'année 2008. C'est une grande année de créativité. Alléluia. C'est une année où tu dois mettre en pratique tes dons. Tu dois mettre en pratique tes dons. Tu dois croire que Dieu va développer tes dons. Et si tu es jeune, ben Dieu te donnera une double portion si tu le crois. Je ne dis pas que cette double portion se manifestera, mais elle va être en route, cette double portion. C'est aussi une année où le Saint-Esprit nous appelle à manifester le don de guérison. C'est l'année de la résurrection. C'est l'année du don de la guérison. C'est donc une année où tu dois prier pour les malades d'une manière toute particulière. C'est une année où tu dois prier pour les malades. Hein? L'année 2009 va être une année beaucoup d'évangélisation. Les années qui viennent, c'est l'évangélisation qui va se lever. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évangéliser. Mais c'est l'année où tu pries pour les malades. Il va y avoir des dons de guérison qui vont se lever. Alléluia. Si tu as été malade, tu as eu des promesses de Dieu que tu vas enfin guérir, c'est l'année où tout au moins tu saisis que tu entres dans un processus de guérison. Tu dis, Seigneur, je prends par la foi que cette année 2008 est une année qui me fait rentrer dans un processus de guérison.